Vous écoutez
RMC.
7h sur RMC, un excellent réveil à toutes et à tous.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Quelques petits nouveaux aux côtés des cadres de l'équipe de France. Didier Deschamps a dévoilé sa liste, sa toute dernière pour le Mondial. On va tout vous détailler dès le début de ce journal. Une fusillade sur fond de trafic de drogue dans un quartier populaire de Nantes hier soir. Un adolescent de 15 ans tué, un garçon de 13 ans toujours entre la vie et la mort. Et puis, il n'avait pas fait aussi froid depuis 2010 pour le pont de l'Ascension. On vous emmène à Saint-Malo où les touristes doivent braver le vent.
La dernière liste de Didier Deschamps qui a dévoilé hier son groupe pour le Mondial.
Et c'est avec 26 joueurs qu'il partira le mois prochain pour sa dernière compétition avec les Bleus. Le sélectionneur, comme à son habitude, il s'appuie évidemment sur ses cadres, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé. Mais il y a quand même quelques petites surprises. Nicolas Pelletier, vous êtes en direct avec nous ce matin sur RMC. Il y a trois nouvelles têtes que le grand public va découvrir.
Oui, la plus grande surprise s'inscrit au rang des gardiens de but. Robin Risser, 21 ans, élu meilleur portier de Ligue 1 avec le RC Lens cette saison et qui n'a jamais été appelé en bleu, va vivre un mondial avec l'équipe de France en tant que troisième gardien. Le natif de Colmar profite notamment des malheurs de Lucas Chevalier, devenu remplaçant au PSG. L'autre surprise, c'est la convocation de Maxence Lacroix. 26 ans et seulement deux petites sélections chez les Bleus. Le défenseur de Crystal Palace a réalisé un excellent rassemblement au mois de mars. Didier Deschamps a donc décidé de lui prolonger sa confiance. Le grand public devra aussi apprendre à connaître Jean-Philippe Mateta, l'attaquant de Crystal Palace, compte trois sélections avec l'équipe de France et il a été préféré à Randal Kolo Muani, pourtant présent au Mondial 2022. 26 sélectionnés et donc beaucoup d'absents. Didier Deschamps a décidé de se passer d'Eduardo Camavinga en difficulté avec le Real et de deux joueurs en forme en Ligue 1, Corentin Tolisso et Florian Thauvin.
Et donc Nicolas, cette équipe sur le papier, elle a tout pour gagner ?
De l'expérience, des petits nouveaux et surtout une force de frappe offensive qui fait trembler les concurrents directs au titre mondial. Et dans sa dernière compétition avec le groupe bleu, Didier Deschamps s'appuiera sur un effectif avec 26,4 ans de moyenne d'âge. Sans être l'objectif officiel du côté de la fédération, on a provisionné un quart de finale du côté du budget.
Nicolas Pelletier, bon en tout cas pour Didier Deschamps, l'objectif il est assez clair.
L'objectif, demandez à mon président, il va vous le dire, il n'y a pas de souci, mais je ne pense pas qu'il va me dire, oh, faites au mieux, ça va, ça me satisfera. On va tout faire, à chaque fois, et avec l'ambition, mais l'humilité c'est suffisante aussi, parce que c'est le très haut niveau.
Allez, la Coupe du Monde à vivre sur RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA. Vous le savez, dès maintenant, vous retrouvez sur l'application toute une série de podcasts qui vont s'afficher dans les semaines à venir, et notamment celui-ci pour découvrir chacune des 48 équipes du Mondial. Un podcast par équipe, vous allez arriver, vous serez prêt sur cette Coupe du Monde. 7h03 sur RMC. Dans le reste de l'actualité, ce drame, cet adolescent de 15 ans tué dans une fusillade hier soir à Nantes.
Dans le quartier Port-Boyer, au nord de la ville, où deux autres jeunes sont blessés, dont un garçon de 13 ans. Entre la vie et la mort, le ministre de l'Intérieur attendu sur place ce matin. Lucas Laubert, vous êtes en direct avec nous. Lucas, ça s'est passé donc hier soir dans un immeuble de ce quartier populaire.
Oui, il est environ 19h30 hier soir lorsque des tirs retentissent dans le hall. Un adolescent est abattu, deux autres jeunes sont blessés. Les tireurs poursuivent l'un de ces deux autres garçons jusqu'au 13e étage où il s'était réfugié dans un appartement avant de prendre la fuite. Selon le procureur de Nantes, il pourrait s'agir d'un règlement de compte sur fond de narcotrafic. Ce que conteste Paola, la tante de l'adolescent décédé, un jeune juste au mauvais endroit, au mauvais moment, selon elle.
J'étais juste assis, en train de parler, de rigoler, et puis il y a quelqu'un qui est arrivé, et voilà. C'est la consternation, on est sous le choc de tel drame, en fait, on en a marre, on ne veut plus, on vit dans la peur.
Fin avril, déjà dans le même quartier, une autre fusillade avait fait un mort et un blessé grave. La mobilisation doit être totale face au narcotrafic qui gangrène le pays, a réagi la maire de Nantes, Johanna Roland, hier soir. C'est la 26e fusillade en à peine 5 mois dans la métropole, se désole-t-elle.
Les précisions de Lucas Laubert pour RMC.
Ça vous interpelle peut-être, ça vous fait réagir, que vous soyez à Nantes ou ailleurs, ces drames liés au narcotrafic et des gamins, faut quand même comprendre de quoi on parle, de 13 ans et de 15 ans, celui qui a été tué. Ça vous fait réagir, vous intervenez au 32-16 ce matin.
1500 teufeurs rassemblés en Lozère, selon le préfet, pour tenter d'installer une rave party dans le nord du département, à Saint-Privat-du-Faux. Ils se sont heurtés hier aux gendarmes et à des agriculteurs qui bloquent les accès au site. La préfecture insiste sur la dangerosité des conditions météo, de la neige, du vent et des températures négatives.
Son meurtre avait considérablement choqué la commune de Fère-en-Tardenois dans l'Aisne.
C'est là que se dérouleront les obsèques de Chloé. En début d'après-midi, cette adolescente de 14 ans poignardée la semaine dernière. Le principal suspect, son ex-petite amie de 23 ans, mise en examen depuis pour assassinat et pour viol. Il est en détention provisoire. Marion Degas s'est rendue sur place pour RMC à la rencontre d'habitants qui veulent être présents aux obsèques.
Oui, c'est le cas d'Amandine. Elle va venir à la cérémonie avec sa fille qui connaissait Chloé. Elle la considérait même comme une bonne amie.
On vient avec une plaque. Elle est petite et elle est grise, marquée pour mon amie.
Et en tant que mère, elle ne peut s'empêcher de penser aux parents.
Je déposerai une lettre de soutien pour la maman et pour rendre hommage à Chloé. On est tous parents, quoi. On sait très bien que c'est difficile pour la maman.
Dans le quartier où résidait l'adolescente, des bouquets ont été déposés près du chemin qu'elle empruntait pour se rendre au collège. Marie la croisait quotidiennement.
Ça fait mal au cœur quand je la vois plus sur le trottoir et que je vois sa copine toute seule qui est plus avec elle.
Les larmes aux yeux, elle se remémore les traits de la jeune femme.
Elle rigolait tout le temps avec ses amis. Elle bougeait beaucoup. Moi, je la croisais tout le temps en passant pour emmener mon fils. Une fille joyeuse, hyper active, qui aimait bien la vie et qui méritait pas ça, quoi.
À l'issue de la cérémonie à l'église, des membres du club de tir à l'arc de Chloé lui rendront un hommage. Ça va être difficile de contenir ses émotions, souffle une passante.
Les dernières discussions aujourd'hui en Chine entre Donald Trump et Xi Jinping. Le président américain repartira, dit-il, avec des paroles encourageantes sur la guerre au Moyen-Orient. Donald Trump revendique aussi avoir conclu, je cite, des accords commerciaux fantastiques. De la neige en plein mois de mai, des flocons attendus à partir de 1200 mètres d'altitude aujourd'hui et partout ailleurs. Il ne fait pas tellement plus chaud, pas plus de 17 degrés attendus aujourd'hui. Ce n'est pas tout à fait le plan de l'ascension auquel s'attendaient ces touristes rencontrés à Saint-Malo par Martin Lange.
Le mercure qui dépasse difficilement les 11 degrés, des rafales de vent. Venue d'Angers en famille, Alexia l'avoue, elle aurait préféré une météo plus clémente.
On s'attendait à avoir du vent, peut-être pas autant. On avait prévu le coupe-vent pour l'enfant, mais pas pour nous, en pensant qu'il n'allait pas faire aussi froid.
Pourtant, les plus téméraires bravent les éléments à l'image d'Adeline et ses enfants. Ils arrivent de Saint-Étienne.
Il y a un peu de vent, mais bon, ça ne nous empêche pas de pique-niquer au bord de la mer, profiter de l'extérieur, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. On sera dehors.
Capuche sur la tête et lunettes de soleil sur le nez, Charline et Olivier profitent des quelques rayons de soleil.
Finalement, on trouve qu'on a beaucoup de chance parce qu'ici, il pleut pas. Il y a un peu de soleil. Il fait peut-être un peu froid, mais le vent fait chasser les nuages.
Il permet aussi à Étienne de profiter de son cerf-volant avec quelques précautions.
On multiplie les couches, je dirais, pour garder un peu de chaleur, puis s'assurer que la casquette ne s'envole pas aussi. Ça, c'est important. C'est une petite difficulté parfois.
Sur la grande plage de Saint-Malo, les voiles multicolores se comptent par dizaines. Morgane sort tout juste d'une session de kitesurf.
C'est extraordinaire. Regardez, on est en combi et ça kite toute la journée.
Et elle est pas trop froide, l'eau ?
Non, pas du tout. J'ai même pas de gants ni de chaussons, donc faut en profiter.
Une eau à 13 degrés, 2 degrés plus chaud que la température extérieure.
Le reportage à Saint-Malo de notre correspondant.
Ouais, on s'y perd, hein. Il faisait un temps d'été en avril, un temps de mars en mai.
Et ça va revenir bientôt chaleur apparemment, dans quelques jours.
Vous vous engagez, Clara?
C'est pas oui, Anthony Kasmarek, je parle.
Il arrive, avant 7h30, c'est promis. Merci Clara Gabillet. On va accueillir Valentin au 32-16, Valentin qui nous appelle de la Vienne. Bonjour Valentin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Supporter d'Angers, oui. Fan de foot. Vous étiez devant Dédé hier soir, Didier Deschamps?
Oui, bien sûr.
Bon. Vous êtes content, vous êtes confiant?
Oui, je suis content, je suis confiant. Pas beaucoup de surprises dans cette sélection, on va pas se mentir. Dédé a pris un effectif et des joueurs qu'il connaissait, à l'exception de Robin Risser. Mm-hmm. Pas une grosse surprise. Je pense notamment qu'on a le meilleur potentiel offensif, toutes sélections confondues.
On Donc, a le meilleur ouais, cette attaque de feu qui va faire peur, un peu plus léger sur le milieu.
Peut-être un petit peu plus léger sur le milieu, encore que, je pense que Tchouaméni est peut-être le meilleur joueur du Real Madrid cette année. Moi, j'attends beaucoup, notamment, c'est de Manu Koné. Je pense que ça peut être une vraie révélation, une vraie surprise.
En tout cas, vous êtes content, Valentin, vous êtes enthousiaste, là. On est à moins d'un mois de la Coupe du Monde. Vous avez entendu le sélectionneur présenter sa dernière liste et vous vous êtes dit, ouais, j'y crois, ces bleus-là.
Oui, bien sûr, ouais. j'y crois. Et puis ensuite, on connaît aussi l'effet Didier Deschamps et l'époque Coupe du Monde. Hein. Faut quand même rappeler qu'on est sur deux finales de suite au niveau de la Coupe du Monde. Donc oui, je suis très confiant. Et puis la révélation, je pense aussi au milieu de terrain, ça peut être Warren Zaïre-Emery, qui est sur une super saison avec le PSG cette année.
Qui peut jouer a priori à tous les postes. En plus, on l'a vu cette année. Merci Valentin. Merci de votre appel. Tiens, comme Valentin. Comment ?
Je suis désolé Mathieu, vous m'avez déjà eu au téléphone, mais je vais quand même le redire parce que je suis envoyé par Julien Cazard et JC Drouet pour faire le tour de toutes les émissions des RMC.
Je vois. Je vois, c'est vous qui alliez à pied au boulot quand les carburants ont commencé à devenir chers, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Je vois, ça me revient.
Je vais faire le pèlerinage entre Angers et Lourdes à pied, puisque Angers s'est officiellement maintenu. Donc je vais faire Angers-Lourdes à pied.
Eh ben, vous saluerez Julien Cazard de ma part. On a un petit problème d'horaire, de rythme de vie. J'ai croisé JC hier au boulot, mais c'est assez rare qu'on se croise. Vous les embrasserez pour nous les nuits du Cazard enchaîné. C'est évidemment tous les soirs, toutes les nuits sur RMC. Et je vois qu'on a des auditeurs qui sont fidèles à RMC, hein, du morning. Parce que Valentin, on l'a déjà eu à 5h15 du matin jusqu'à passer minuit. Bravo Valentin. Et j'espère que vous nous porterez chance aussi pour cette Coupe du Monde. Bonne marche, hein, entre merci Angers beaucoup. Et Lourdes. Il y a une petite trotte. Il est 7h10 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Bonbons, tisane, cookies au CBD, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, on ne peut plus vendre de produits alimentaires avec cette molécule dérivée du cannabis, issue du cannabis. La France, comme d'habitude, qui applique mieux les règles européennes que ses voisins. Ça vous fait réagir, vous consommez peut-être du CBD à fumer, à manger, vous en vendez peut-être des tisanes. Appelez-nous au 3216 ce matin, cette interdiction est une aberration. C'est ce que dit Paul McLean, président de l'Union des professionnels du CBD. Rendez-vous dans une minute sur RMC et RMC Story.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h14, vous êtes sur RMC et RMC Story. À partir d'aujourd'hui, tous les produits alimentaires à base de CBD sont interdits à la vente. Le CBD, molécule issue du cannabis, mais sans son principe actif stupéfiant, le THC. Il se fume, mais il peut aussi se manger. Et c'est fini pour les bonbons, les tisanes, les gâteaux. Bonjour Paul McLean.
Bonjour.
Vous êtes président de l'Union des professionnels du CBD. Cette interdiction est une aberration, c'est votre parti pris. Pourtant, ce n'est qu'une application de la loi. Pourquoi c'est interdit?
Alors, c'est une réglementation européenne, mais il faut savoir que la réglementation européenne ne s'impose pas d'elle-même. Elle prévoit elle-même dans son article 15 la possibilité d'y déroger. C'est ce que font beaucoup d'autres pays de l'Union européenne et c'est ce que faisait la France jusqu'à il y a 3 semaines. Mmh.
En fait, on attend une autorisation de l'EFSA, qui est l'Agence européenne de sécurité des aliments, et c'est ça qui bloque. En fait, ce que vous reprochez aux autorités françaises, c'est d'appliquer un règlement, le règlement plus strictement que nos voisins européens.
Oui, tout à fait, oui, parce que les produits seront toujours sur le marché, hein. Il sera tout à fait possible, comme vous le savez, d'aller sur un site internet et de les commander. C'est juste les entrepreneurs français qui ne pourront plus vendre. On pourra toujours avoir des huiles, mais on ne pourra plus avoir d'huile française.
Alors, sauf qu'en réalité, ce que l'on comprend avec cette autorisation qui tarde à arriver, et si on prend les choses dans l'ordre, Paul McLean, c'est que vous êtes mis à vendre les produits avant d'avoir l'autorisation de le faire.
Alors, techniquement, on s'est mis à vendre les produits avant qu'ils ne soient considérés comme des novel foods, puisque c'est une réglementation qui date de 1997, et la Commission n'a décidé de les classer comme novel foods qu'à partir de 2019, alors que ces produits étaient déjà présents sur le territoire.
Alors concrètement, on va revenir sur le terrain et sur le terrain de vos boutiques en l'occurrence. Comment ça se passe pour vous dans votre boutique? Vous avez vidé les étagères ce matin?
Alors moi je n'ai pas de boutique, hein, je représente le.
Et vous n'avez pas de boutique vous-même?
Non.
Vous les représentez juste, d'accord. Et dans les étals aujourd'hui, ils ont tous vidé leurs étagères?
Alors,
on
vendra
plus de produits alimentaires?
Chacun prend ses propres, enfin fait ses décisions lui-même. Mais ce n'est pas vraiment une interdiction, hein, c'est un plan de contrôle de la DGAL, donc c'est la DGAL qui va venir dans les boutiques pendant
la
l'année 2026.
Direction générale de l'alimentation, oui. Oui, ça c'est pour les contrôles, mais il vaut mieux pas qu'il y ait de cookies ou de bonbons, puisque désormais on n'a plus le droit normalement de les vendre. Alors ça représente quel manque à gagner pour ces boutiques?
On parle d'à peu près 40% du chiffre d'affaires actuellement.
40%?
Oui, tout à fait, oui.
40% du chiffre d'affaires, pas de ce qui est vendu, mais du chiffre d'affaires des boutiques de CBD, ce sont des produits alimentaires, des bonbons, des gâteaux, des tisanes.
Exactement, c'est d'ailleurs le secteur qui connaît la plus forte croissance, hein, ces dernières années. On est sur une croissance juste de ce secteur de à peu près 30%, parce que bah, clairement l'avenir, hein, de ces produits qui est censé être un produit bien-être n'est pas la voie fumée, hein, ou autre, c'est bien la voie alimentaire.
Ben oui, précisément, pardonnez-moi, on a tendance à penser que c'est surtout pour le fumer que les gens l'achètent. Et par ailleurs, ça paraît même aussi un peu saugrenu de se dire qu'on autorise le produit à fumer, on sait que c'est nocif parce qu'il y a une combustion, etc. Et pas l'alimentaire. Après, je suis pas médecin et c'est pas moi qui m'engagerai sur ce terrain-là. Mais on a Eric qui est en ligne avec nous dans l'Ain. Bonjour Eric.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Soyez le bienvenu sur RMC et RMC Story. Alors vous, c'est une question presque, enfin pas presque, complètement médicale. Vous avez eu recours au cannabis d'abord, si je lis bien votre fiche,
c'est ça,
pour des raisons thérapeutiques,
de
mais aujourd'hui vous êtes client de CBD.
Oui, exactement.
parce que ce que je recherche, c'est pas le côté défonce, c'est le côté détente et antidouleur. Faut savoir que la cigarette CBD, elle est pas autorisée comme on l'entend. C'est-à-dire que normalement, vous achetez votre paquet, il est censé rester fermé jusque chez vous. Vous pouvez pas le consommer n'importe où et en plus, c'est pas discret. Il y a une odeur qui est très très forte.
Et vous l'achetez en illiquide ?
Moi, je l'achète en gummies.
En gummies, en bonbons. Ah ouais. Oui, donc ça, vous le trouverez plus aujourd'hui.
Ah ben voilà. Donc qu'est-ce que je fais du coup ? Parce que les antidouleurs de pharmacie, ben, ils m'empêchent d'aller uriner correctement. En fait, ils sont très nocifs pour les reins. Donc,
Ça marche, Eric? Parce que, pardonnez-moi, on a quand même aussi petites études qu'on détaillait ce matin. Il n'y a pas d'effet avéré thérapeutique sur le côté antidouleur. Vous dites que vous y trouvez votre compte, Eric.
Pour moi, ça marche, mais je pense que comme je suis très tendu, ça me permet de me détendre.
Ouais. Merci, Eric, de votre témoignage. On est exactement dans le sujet, concrètement, puisque Eric était consommateur de gummies, c'est les bonbons gélatines au CBD. Merci Paul McLean, c'est figé pour l'instant ?
C'est-à-dire ?
Ça bougera pas. Vous avez des réponses du gouvernement ?
Écoutez, nous on essaie toujours d'engager la voie diplomatique. Pour le moment, on n'a pas de réponse, on n'a pas d'avancée concrète. Donc on est encore dans l'attente.
Alors on suit, et peut-être que vous avez une boutique aussi, parce que j'ai appelé les consommateurs à nous appeler, peut-être que vous avez une boutique et que vous vendez du CBD, ces produits, qu'ils soient à fumer ou à produits alimentaires. Vous témoignez ce matin au 32-16. Merci Paul McLean, président de l'Union des professionnels du CBD. Il est 7h19 sur RMC. Et dans un instant, on va remonter l'histoire avec vous, Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Mathieu.
L'historien d'Apolline Matin. Et Arthur, on va se replonger dans la Beatlemania. Le musée des Beatles doit ouvrir à Londres l'an prochain. Le succès s'annonce démentiel.
Bah, et pour cause, Mathieu, hein, John Lennon clamait haut et fort que les Beatles étaient plus populaires que le Christ. Et bah, c'est le moment de le vérifier.
Et puis à 8h30, dans le face-à-face, Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, qui répond aux questions de Marie Chantret. Arnaud Demange pirate l'interview en direct, juste après, il y aura la semaine face à Canteloup à 8h50. Vous ne bougez pas, on se retrouve dans 30 secondes exactement.
RMC. Apolline Matin.
Oui, parce qu'ils étaient fans de Rome.
Allez, c'est parti, 7h21, on va écouter un peu de bonne musique ce matin avec l'historien d'Apolline Matin. Bonjour Arthur Chevalier.
Bonjour Arthur.
On l'a appris cette semaine, un musée consacré aux Beatles va ouvrir à Londres. L'inauguration est prévue pour 2027.
Oui, et ça s'appellera The Beatles at 3 Savile Row. Alors pourquoi ce nom ? Eh bien parce que Savile Row, c'est la rue de Londres où les Beatles ont donné leur tout dernier concert. C'était sur le toit d'un immeuble en 1969. Cet immeuble, c'est aussi là où ils ont enregistré un de leurs plus grands tubes.
Pourtant, l'histoire des Beatles n'a pas commencé à Londres.
Eh bien non, tout a débuté à Liverpool, une ville ouvrière du nord-ouest de l'Angleterre. C'est là-bas qu'à la fin des années 1950, deux adolescents d'un milieu modeste se rencontrent. Ces ados, c'est John Lennon et Paul McCartney. Un coup de foudre musical qui va devenir une success story. Ils sont rejoints par un guitariste, George Harrison. Et en 1960, ils créent un groupe, les Beatles. En anglais, les Beatles, ça veut dire scarabée. Deux ans plus tard, Ringo Starr, un nouveau batteur, rallie l'aventure.
Le succès va arriver très vite.
Oh oui, très vite. En 1963, ils sortent leur premier album. Ça s'appelait Please Please Me, avec plusieurs tubes, dont celui-ci. Love, love me do. L'album est numéro 1 en Angleterre pendant 7 mois. C'est le début de ce qu'on appelle la Beatlesmania. Chaque apparition publique du groupe provoquait des attroupements délirants. Le phénomène va traverser les frontières. En 1964, Mathieu, le groupe se produit au Ed Sullivan Show, l'émission star de la télé américaine, devant un public hystérique. Ils sont réunis 73 millions de téléspectateurs, c'est-à-dire plus d'audience que pour la finale du Super Bowl. C'est un des records de la télé américaine.
Alors, les Beatles, c'est aussi des polémiques à la mesure de leur succès.
Et surtout une, Mathieu. En 1966, John Lennon se lâche un peu et déclare que les Beatles sont plus populaires que Jésus-Christ. Ça provoque un scandale mondial. La phrase est prise pour un blasphème dans les pays très religieux. Et par exemple, au Mexique ou en Afrique du Sud, les chansons des Beatles sont même temporairement interdites à la radio.
On a brûlé des vinyles au Texas.
Brûlé des vinyles, absolument.
Les membres du groupe font même leur entrée dans un célèbre dessin animé.
Et oui, c'est peu connu, dans un chef-d'œuvre de Walt Disney, Le Livre de la Jungle. Dans ce film de 1967, on voit quatre vautours avec des coupes de cheveux qui ressemblent à celles des Beatles. Et c'est normal, puisqu'ils sont directement inspirés par eux. Disney voulait aussi que les Beatles prêtent leur voix pour le doublage, ce qu'ils ont finalement refusé.
Et puis alors, incroyable, mais les Beatles ont aussi voulu adapter Le Seigneur des Anneaux en film.
Ah oui, alors ça c'est une histoire de fou, parce qu'en fait les Beatles étaient fans du roman Le Seigneur des Anneaux, donc ils avaient même commencé à travailler sur un scénario, ils s'étaient même distribué les rôles principaux du livre. Ils sont allés jusqu'à proposer à Stanley Kubrick d'être le réalisateur. Et finalement, c'est Tolkien, donc l'auteur du Seigneur des Anneaux, qui a refusé l'adaptation.
Ah bon ?
Absolument, il a refusé. Je crois que c'est le seul échec de la carrière des Beatles, hein, puisque le groupe se sépare en 1970 après 12 albums mythiques qui se sont à ce jour vendus à plus de 600 millions d'exemplaires.
Et Arthur Chevalier m'a fait mourir de rire en préparant cette émission. J'ai appris que John Lennon devait jouer Gollum.
Et George Harrison, Gandalf.
Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On y est. Merci beaucoup, Arthur
Merci
Chevalier. L'historien d'Apolline Matin, votre chronique à retrouver en podcast et sur le site et l'application RMC, bien entendu. Il est 7h25.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Bonjour Arnaud Demanche. Comment ça va Arnaud?
Et tous les amis.
À 8h30 tout à l'heure sur RMC et BFM TV, l'invité du face-à-face, c'est Jean-Philippe Tanguy, député
ouais,
RN de la Somme.
Rien à voir avec Gollum. On est à 7 semaines du 7 juillet. C'est le jour du verdict dans le procès de Marine Le Pen dans 7 semaines, dites donc. Une journée qui restera dans l'histoire de l'extrême droite, le jour de l'abdication de la Marie-Antoinette de la droite radicale, décapitée par son ascension, pendant son ascension, pardon. Oui, c'est Stéphane
c'est
Bern.
C'est secret d'histoire.
Non, mais c'est secret d'histoire. Voilà. Donc, sur le jour où Marine, suivant ainsi les traces de son idole Jeanne d'Arc, sera cramée avant de pouvoir diriger le pays. Et c'est le dauphin, Jordan Ier des deux Siciles, des trois Sardaignes et des quatre fromages, qui récupérera le trône. Jordan Bardella se rapproche d'une candidature à la présidentielle. Ceci dit, je trouve qu'il fatigue en ce moment Jordan. L'autre jour, en interview, il a dit ça.
Non, trèfle de plaisanterie, mais si Jean-Luc Mélenchon devient président de la République, je finirai soit au goulag.
Alors, je passe sur l'exagération, c'est le trèfle de plaisanterie où je me suis dit, oula, un peu de repos lui ferait du bien parce que là, il se voit candidat, mais avec ce genre de bourde, vaut mieux pas vendre la peau de l'oursin tout de suite. Quoi. Alors, bien sûr, l'occasion fait le lardon, mais vaut mieux pas mettre la charia avant l'hébreu quand même. Alors, chez LFI, ils se sont un peu moqués alors que eux, ils ont de l'ogu. Hein. C'est un peu l'orignal qui se fout de la charcuterie. Allez, on passe du coca light.
On peut faire la matinée entière.
Ouais, on peut en faire plein. On peut en faire plein. Allez, on passe du Coca Light. En ce moment, le RN est en guerre avec Kylian Mbappé. Ouais. Le capitaine de l'équipe de France a mis en garde contre les conséquences d'une victoire électorale de l'extrême droite en 2027 dans un entretien à Vanity Fair. Ce à quoi Jordan Bardella a répondu. Et moi, je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG. Le club gagne la Ligue des Champions. Nananer. Alors, le nananer, c'est moi qui l'ai rajouté, parce que j'ai trouvé ça vraiment gamin comme réplique. Attention, hein, Jordan. Au débat du second tour, on pourra pas la jouer comme ça. Monsieur Bardella, vous ne proposez rien de concret pour le quotidien des Français. C'est celui qui dit qui est. Non, alors ça, c'est pas un argument. Et voilà, t'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. Non, je suis désolé, monsieur le boulot, mais le débat... Oh, le gros rapporteur! T'es un bébé cadome! Monsieur Bardella, vraiment, vous n'êtes pas au niveau. Miroir, miroir, tout ce que tu dis revient sur toi. Monsieur Boulot. Ah non, vous n'allez pas aller sur ce terrain. Ah non, vous n'allez pas aller sur ce terrain. Vous n'allez pas répéter tout ce que je dis. Ah, tu vas pas répéter tout ce que je dis. Allez, un peu de repos, Jordan, quand même. On s'élève. On voit tout ça avec Jean-Philippe Tanguy à 8h30. Et à tout à l'heure.
Moi, je pense à tous ceux qui sont en voiture avec leurs enfants et qui vont commencer à jouer à ça, les gamins derrière.
Ah, les gamins.
Toute la matinée.
Répéter,
vous direz merci Arnaud Demange. Qu'on retrouve tout à l'heure à 8h15, à tout moment en podcast. Vous restez bien avec nous dans un instant, le journal. Et la météo d'Anthony Cazemin qui s'est déjà installé. Il est 7h28.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal avec Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La famille reste sacrée pour les Français, mais la réalité économique rattrape de plus en plus de parents. Constat du baromètre de l'Union Nationale des Associations Familiales que l'on vous révèle ce matin sur RMC. On connaît les 26 bleus qui partiront à la conquête de la troisième étoile. Didier Deschamps a dévoilé hier sa liste. Et un été incertain pour le secteur des croisières. Les incidents sanitaires inquiètent les voyageurs.
Être parent en 2026 coûte de plus en plus cher.
Et ça commence à se voir dans le quotidien des familles. Un tiers des parents ne peut plus faire plaisir à ses enfants. Un chiffre en hausse de 7 points par rapport à 2024. Certains peinent même à répondre à leurs besoins essentiels. Un constat alarmant du baromètre de l'Union nationale des associations familiales que l'on vous révèle ce matin sur RMC. Justement, Pierre Bourgès, vous avez pu rencontrer certains de ses parents près de Bordeaux.
Maryse sort du centre commercial avec ses trois filles et son mari, mais attention, il n'était pas question de faire des achats superflus.
Les plaisirs, c'est calculer, c'est compter, même pour les enfants.
Quand il faut faire plaisir aux enfants, désormais, la mère de famille pense d'abord utile.
Je veux, jouer Pas de Patrouille. Et bien, nous, par exemple, on va plus choisir un vélo Pas de Patrouille qui est plus utile qu'un jouet Pas de Patrouille.
Le couple s'inquiète également pour l'avenir de ses enfants. Selon le baromètre, plus de la moitié des parents ne pensent pas pouvoir le financer. C'est aussi l'inquiétude de Gaël.
On peut pas s'ouvrir tous les horizons sur n'importe quelle école, n'importe quels endroits. Si nos deux enfants disent on veut aller chacun étudier dans une ville différente, ça va être compliqué.
Même constat pour Stéphanie qui pense déjà aux études supérieures pour sa fille de 16 ans.
Sur 3 ans d'études, on devait budgétiser 15 000 euros. Aujourd'hui, on n'est plus en capacité de le faire.
Si je vous avais posé la question il y a un an ou deux, est-ce que la réponse aurait été la même ?
Non, je ne pense pas parce que tout a augmenté. En fait, au niveau du carburant, les charges, tout ça, ça a augmenté. On se dit, qu'est-ce qu'on a fait de mal ? On a l'impression de ne pas les protéger.
Sa fille se prépare donc déjà à chercher une alternance pour que l'école puisse financer ses études.
Les familles qui décrochent, vous allez témoigner au 32-16, ça coûte de plus en plus cher d'être à la hauteur aussi. Quand je lis les résultats de l'étude, 13% n'arrivent pas à répondre aux besoins essentiels de leurs enfants, 53% n'arrivent pas à préparer leur avenir, un tiers ne peut plus se permettre de faire plaisir à ses enfants. Vous vous reconnaissez dans cette étude, vous témoignez ce matin au 32-16, n'hésitez pas, il est 7h33 sur RMC.
Et on connaît les 26 bleus pour conquérir le mondial. Il ne reste plus que 11 rescapés de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Les frères Hernandez, Mbappé ou encore Dembélé. Des petites surprises, le gardien Lançois Risser ou encore Mateta, Maxence Lacroix et des absents, Kamavinga, Chevalier, Kolo Muani. Alors qu'en pensent les supporters ? Victor Girard, vous avez suivi l'annonce de la liste à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis, avec des jeunes footballeurs.
Dans leur clubhouse, pendant l'annonce de la liste, pas de doute chez ces jeunes footballeurs.
Elle est impeccable. Hein.
Didier Deschamps a fait les bons choix.
Il n'y a qu'un point faible. Défense, on est solide. On a des bons goals, Matmignon, milieu terrain, Rabiot, Tchouaméni, impeccable.
Sous l'attaque, qui fait vraiment rêver avec beaucoup de joueurs très performants. Mbélé, Ryan Cherki, Olise, Bradley Barcola, Désiré Doué. Ils font des très grandes performances en Ligue des Champions ou encore dans leurs ligues respectives. Ça a vraiment nous aidé à aller très loin dans cette campagne.
On peut ou on va la gagner, la Coupe du Monde ?
C'est la dernière Coupe du Monde de Didier Deschamps. Il va tout donner. Il a obligé de finir en beauté.
Comment on va la gagner la Coupe du Monde ?
Il faut quand même rester sur nos gardes parce qu'il y a des très bonnes compositions, que ce soit le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, etc. Ce sont les grands favoris. Penser des propos un peu trop confiants.
Et comment vous vous sentez à un mois de la Coupe du Monde ?
Franchement, j'ai trop hâte. La Coupe du Monde, ça arrive tous les 4 ans. C'est la compétition la plus attendue dans le foot. Même les petites équipes, on va les regarder.
On va aller au clubhouse, on va se rejoindre pour regarder les matchs de la France.
Moi, c'est pour que la France vive la France.
Et un bleu est en zone de turbulence, c'est Kylian Mbappé au Real Madrid. Une entrée en jeu hier sous la bronca des supporters lors de la rencontre contre Oviedo. L'attaquant français a publiquement mis en cause son entraîneur Arbeloa. À la fin de la rencontre, il affirme avoir été relégué au rang de quatrième attaquant de l'équipe alors qu'il était à 100% et prêt à jouer dès la première minute. Des propos immédiatement démentis par son coach. Le mondial, lui, débutera le 11 juin prochain. À suivre sur RMC, l'antenne sera 100% Coupe du Monde de 18h à 5h du matin.
Vous allez réagir au 32-16 ce matin. Je suis surpris par les sifflets sur Kylian Mbappé, bien entendu. Mais nous, on est sur la liste des 26 de Didier Deschamps. Est-ce que vous y croyez, cette équipe de France ? Est-ce qu'elle vous plaît ? On va appeler Lionel Charbonnier. Il a connu, lui, ce moment-là, en 98, ce moment où son nom est prononcé par le sélectionneur. Il va nous raconter quelques-uns de ses souvenirs. Et puis surtout, on va analyser les 26 qui vont aller chercher une troisième étoile. 7h35.
Nantes, secouée par une nouvelle fusillade, la 26e depuis le début de l'année. Un adolescent a perdu la vie hier soir dans le quartier du Port-Boyer. Deux autres blessés, dont un grièvement, un adolescent de 13 ans. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, s'est attendu sur place ce matin. Les habitants, eux, sont sous le choc.
De nouvelles accusations qui visent Patrick Bruel.
Deux femmes ont déposé plainte mardi pour agression sexuelle et tentative de viol. Elles seraient, selon Mediapart, une vingtaine à dénoncer ces violences. Lui, ni les faits. Et Constance Bostoen, du service police-justice d'RMC, ce n'est pas la première fois que ces deux femmes accusent Patrick Bruel.
Oui, l'une des plaignantes dénonce une agression sexuelle dans une cabine de massage en juillet 2019 à Perpignan. L'autre accuse Patrick Bruel d'une tentative de viol en 2010 à son domicile lors d'un rendez-vous professionnel. Ces deux femmes avaient déjà déposé plainte il y a quelques années, mais la procédure avait été classée sans suite, comme le rappelle Christophe Ingrin, l'avocat du chanteur au micro de BFM TV.
Patrick Bruel se défendra, comme il s'est défendu déjà à l'occasion des deux enquêtes qui ont précédé ces plaintes avec constitution partie civile, qui ne sont que redites, des plaintes qui avaient déjà été l'objet d'enquête. Si un juge d'instruction est désigné, bien, très bien.
La saisine d'un juge d'instruction, c'est justement ce qu'espèrent les deux plaignantes, confortées, selon leur avocate, par le récit d'autres victimes dans la presse ces dernières semaines. En plus de ces nouvelles plaintes, Patrick Bruel est actuellement visé par trois autres procédures, dont deux en France et une en Belgique.
RMC 7h37 à 90 jours des vacances d'été. Les croisiéristes naviguent en eau agitée entre incidents sanitaires à bord. Antivirus qui a provoqué la mort de trois passagers, des épidémies de gastro-entérite, des escales perturbées. Le secteur enchaîne donc des mauvaises nouvelles. Après une année 2025 record, Antonin Audion, l'industrie redoute désormais une crise de confiance auprès des voyageurs.
Depuis 25 ans, Roselyne et son mari enchaînent les croisières, l'Europe du Nord, les Antilles, la Méditerranée. Mais pour leur prochain voyage, ils sont méfiants.
Comme ça arrivait sur certains bateaux, on y pense. Pour l'instant, bon, on s'affole pas. On attend de voir ce qui va se passer. S'il y avait beaucoup de cas, beaucoup de problèmes de ce genre sur d'autres bateaux, on n'irait peut-être pas.
Ils sont nombreux dans cette situation, ce qui pourrait toucher directement les croisiéristes, comme l'explique Arnaud Aimé, spécialiste des transports.
L'impact sur la demande de la crainte du nouveau virus, de l'antivirus, dont on commence à sentir que ça peut avoir une influence sur la demande sur certains types de croisières, notamment les itinéraires dits d'expédition.
Des difficultés qui s'ajoutent au prix des carburants. Ils plombent les armateurs depuis le début de l'année. Rosemarie Faroudia dirige le cercle des voyageurs.
Les clients attendre. Il y a un attentisme très fort au voyage. Les clients ont parfois peur d'être coincés à destination, ont peur des hausses de carburant.
Pour continuer d'attirer de nouveaux clients, les armateurs multiplient les offres et les promotions.
Les courses RMC, le quintet qui se déroule sur l'hippodrome à Vincennes, c'est à 20h15.
Le pronostic de Dimitri Blanc-L'Œil, son favori le 14, son outsider et le 8, Cameron.
Merci beaucoup Clément, c'était le journal. Il est 7h38, on va accueillir Patrick qui nous appelle du Pas-de-Calais. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Vous avez écouté RMC ce matin et je crois que vous êtes consommateur de CBD. Les produits alimentaires à base de CBD, les bonbons, les cookies, les tisanes sont désormais interdits à la vente. Patrick, vous en consommiez ?
Oui, tout à fait. Oui, bien sûr, des gummies.
Des bonbons.
Oui, voilà, mais aussi, et là c'est plus, j'ai commencé en le fumant en fait. Parce que j'étais quelqu'un qui a, depuis tout jeune, on m'a mis des traitements pour dormir. Alors, des somnifères, Zopiclone, Atarax, ainsi de suite. Et en fait, j'ai voulu arrêter. Et pour arrêter, j'ai pris du CBD. Et j'ai pu arrêter tous ces traitements qui étaient...
Ça vous aidait à dormir?
Ah oui, ça a remplacé.
Je le redirai à chaque fois qu'un auditeur nous défend les vertus thérapeutiques, que pour l'instant, elles ne sont pas démontrées scientifiquement, qu'il n'y a pas plus d'effet qu'un effet placebo, etc. Mais vous, Patrick, ce que vous nous dites ce matin, c'est que vous, c'est l'usage que vous en aviez pour vous aider à dormir le soir sous forme de bonbons.
Et j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ont arrêté aussi le cannabis grâce au CBD. Donc, je veux dire, quand on veut lutter un peu contre la drogue, tout ça, c'est peut-être quelque chose qui pourrait aider, plutôt que...
Non mais il y a un dysfonctionnement, il y a un retard qui est pris par l'agence de sécurité des aliments européenne pour délivrer une autorisation et la France a décidé d'appliquer la règle à la lettre, ce que ne font pas forcément d'autres pays voisins. Mais on parle aussi d'autres pays voisins qui ont légalisé le cannabis tout court, donc peut-être que, bon, Patrick, vous allez faire comment ?
Je préférerais plutôt que justement on aille vers ces valoriser, peut-être que c'est pas la panacée hein, le CBD, mais quand même, ça peut. J'aurais un enfant qui me dirait, je préférerais le voir reprendre du CBD que d'aller dans un quartier voir des gens qu'il ne connaît pas. J'achèterais sur Internet. Que voulez-vous ? Je n'irai plus chez ma boutique locale.
Donc, donc y compris dans l'illégalité aussi. Du coup, mais Patrick, merci de votre témoignage ce matin au 32-16. On va continuer d'en parler. Vous le consommez le CBD. Je sais qu'il y a aussi des pharmaciens qui en vendent. Vous êtes pharmacien. Appelez-nous au 32-16. Vous avez une boutique de CBD. On en parle ce matin comme Patrick l'a fait au 32-16. Merci Patrick, 7h41.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Bon réveil à toutes et à tous à l'écoute d'RMC, il est 7h44. Le compte à rebours avant le 11 juin, la Coupe du Monde de foot de la FIFA, RMC Radio officielle. Vous aurez 100% des matchs, une antenne, 100% Coupe du Monde de 18h à 5h du matin. Et dès maintenant sur l'application RMC, des podcasts qui vous présentent les 48 équipes du Mondial. Surtout avec nous, la Dream Team RMC qui compte 4 champions du monde quand même. Samuel Umtiti, Emmanuel Petit, Christophe Dugarry et bonjour Lionel Charbonnier.
Salut Mathieu, salut la team, salut à tous nos auditeurs.
Champion du monde 98, c'est un moment clé hein, que l'annonce de la liste du sélectionneur. Et parmi les surprises du chef hier soir, le choix de l'attaquant de Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta. On l'a eu au téléphone hier dans l'after, il l'a appris devant sa télé, écoutez.
Attaquant Jean-Philippe Mateta.
Je ne réalise pas encore, je l'ai appris comme tous les Français hein, devant la télé. Moi on m'a rien dit, j'ai voulu le voir comme tout le monde, j'ai regardé TF1 et...
Vous l'avez appris comment, vous, Lionel Charbonnier? On est comment quand on est joueur à moins d'un mois d'une Coupe du Monde et qu'on attend d'entendre son nom?
Ah bah moi, je l'ai appris, en fin de compte, au tout dernier moment, tout simplement parce que j'étais déjà... On était, vous saviez, à Clairefontaine, il y avait une liste élargie à l'époque. Oui. Et donc, il y avait quatre gardiens. Je crois qu'il y avait Lionel Letizy aussi qui était là, oui, dans le regroupement. Et le soir même, c'était le dernier jour. Et Aimé Jacquet nous dit, demain matin, les gars, je vous donnerai la liste et tout ça. Et puis, j'étais vraiment fatigué. J'avais tout donné pendant ce prestage de sélection. Et j'ai demandé au kiné, j'ai dit, tu pourras venir me masser, s'il te plaît, et tout. Mais je dis, mais fais les titulaires, les Zizou et compagnie avant. Et si te reste de la place, tu viendras. Il me dit, oui, pas de souci. Et donc, vers 1h du matin, ça toque à ma porte, tout en haut. J'étais vers le grenier, tu sais, je voulais toucher les étoiles déjà. Et puis, ça toque. Et puis, le kiné arrive. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je regarde ma montre, 1h du matin. Je dis, c'est pas possible. J'ai dit, mais non, mais va te coucher. J'ai dit, ça se trouve, demain, je serai plus là. Et puis il me dit non, il dit si je viens c'est parce que ça y est la liste elle est faite, ils sont tous partis, c'est toi qui restes pour le mondial. Je lui dis ah bon, et donc je l'ai appris à 1h du matin comme ça, je savais même pas. Donc là, j'ai appelé mon père tout de suite.
Troisième gardien des Bleus, vous l'étiez en 98, là c'est une des surprises, hein. Robin Risser, 21 ans, le gardien lensois, Lucas Chevalier n'est pas retenu. Robin Risser, Jean-Philippe Mateta, Maxence Lacroix, ça c'est la troisième surprise, le défenseur de Crystal Palace. Il y a les déçus bien sûr, cette liste elle est cohérente, elle vous a plu Lionel?
Ouais, elle est très cohérente. Il y a pas de surprise. Didier, de toute façon, avec Dédé, il y a rarement des surprises. Ou alors, ce sont des bonnes surprises. Donc, et là, ce sont aussi des bonnes surprises parce que Risser est un bon gardien. Il a fait un bon championnat. Pendant un moment, je me suis posé la question est-ce qu'il faut mettre Risser? Est-ce qu'il faut rappeler Dioris? Ce qui prouve un petit peu quand même la pénurie de nos gardiens de but en tout cas la formation en France. Et puis Risser s'est repris parce qu'il a eu un passage à vide et là il est beaucoup mieux. Didier le connaît, il connaît l'équipe de France, il a déjà fait des entraînements avec eux, donc ça me paraît tout à fait logique.
Lionel, ouais, pour terminer, vous avez un petit prono, est-ce qu'on s'y risque, est-ce qu'on est, on fait partie des favoris, mais on la gagne cette Coupe du Monde, on met une troisième étoile?
Si moi j'y crois pas, personne n'y croira, donc oui bien sûr on va y aller, on va aller au bout et puis pourquoi pas? Mais oui, c'est la dernière de Dédé. En tout cas, on sera tous derrière eux. Ça, c'est certain. En tout cas, moi, c'est certain.
Ça, c'est certain. Et les auditeurs le sont. Ce matin, vous réagissez au 32-16. Vous avez suivi cette liste de 26. Elle vous plaît ou pas? Tiens, on peut débattre aussi, bien sûr. On vous attend ce matin au 32-16. Merci, Lionel Charbonnier, champion du monde 98.
Salut, Mathieu. Salut à tous.
Membre de la Dream Team RMC Sport. On est mobilisés. J'ai pas dit, il y aura 40 envoyés spéciaux aux États-Unis, Canada, Mexique. Vous ne manquerez rien avec RMC. Il est 7h48.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h50 sur RMC et RMC Story. Faut-il priver les stars d'Hollywood de jets privés? Les stars d'Hollywood, et d'ailleurs devraient-elles venir à Cannes en avion de ligne, en classe éco même? C'est le débat RMC entre la voix de gauche, Cécile Duflot. Bonjour Cécile.
Bonjour Mathieu.
Et la voix de droite, Jérôme Lavrieux. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Question soulevée par des militants écologistes qui dénoncent dans une pétition le balai de jets privés sur la Croisette pendant le festival. Je cite, le fait que les personnalités riches et célèbres brûlent du carburant devenu rare pour se rendre à un festival de ciné n'est pas seulement une preuve d'aveuglement, c'est obscène. Voilà ce que déclare l'un des signataires de la pétition, ex-pilote d'Air France, Jérôme Lavrieux. C'est obscène?
Non.
750 jets l'an dernier, je voyais les chiffres. C'est comme 14 000 passagers de Paris à Athènes.
Oui, d'accord. Et les passagers de Paris à Athènes, c'est comme des dizaines de milliers de voitures qui sont elles-mêmes comme des dizaines de milliers de motos. C'est pas obscène, ça existe. Ça fait tourner l'économie, notamment l'économie du sud de la France. Cannes, c'est ça. Cannes, c'est des vedettes. Cannes, c'est des gens qui ont de l'argent qui viennent et qui font travailler des dizaines de milliers de personnes. À titre personnel, est-ce que c'est obscène de payer 2000 ou 3000 euros ou 5000 euros pour une suite dans un hôtel? À titre personnel, je trouve ça obscène. Ça m'est jamais arrivé. Mais ça fait travailler aussi des dizaines de milliers de personnes. Et donc, c'est pareil pour les jets. Si nous, on le fait pas, ils iront au festival de Venise, ils iront au festival de Berlin, ils iront ailleurs et on n'aura pas diminué d'un gramme la pollution sur la planète.
Cécile, pour vous, il faut carrément les interdire, les jets privés ?
Moi, je pense que oui, il faut vraiment faire diminuer drastiquement l'usage des jets privés. Pourquoi ? Parce que c'est pas du tout la même chose de dormir dans une chambre d'hôtel à 2000 euros et à 122. Ça émet un peu plus de gaz à effet de serre, mais pas beaucoup plus finalement. Alors que voyager en jet par rapport à un avion de ligne, c'est en autour de 10 fois plus d'émissions. Et par rapport au train, là, c'est 50 fois plus. Et le problème, c'est que ces jets, ils font des fois des Nice Cannes. C'est pas possible, en fait. Ça n'a aucun sens. Et je vais utiliser les mots qui sont pas de moi, mais d'un utilisateur et même propriétaire de jet privé. Il s'appelle Stephen Prince. Il est américain. Il a fait fortune avec les cartes cadeaux. Et il a dit, j'adore les vols privés. J'adore ça. Quiconque a déjà pris un jet n'a pas aimé n'est probablement pas humain. C'est un des trucs les plus grisants, privilégiés que la race humaine puisse expérimenter. C'est comme la cocaïne. La pire chose à faire, c'est commencer parce qu'il suffit d'une fois pour devenir accro. Et donc, il est favorable. Il a vendu son propre jet en disant, si vous l'avez, vous pouvez pas faire autre chose que l'utiliser. Alors qu'en fait, voyager en avion de ligne, c'est pas dramatique. Donc, il y aura toujours le festival de Cannes, même s'il n'y a pas des masses de jets privés.
L'enjeu, il est industriel, Jérôme Labrie?
Ah, l'enjeu, il est économique. Il est aussi industriel. Nous sommes, je crois, le troisième producteur de jets privés dans le monde. Les entreprises Dassault, allez en parler aux milliers d'ouvriers qui travaillent du côté de Bordeaux pour construire des Falcons et toute la série. Il faut bien les vendre à quelqu'un. Il faut bien les utiliser. Et encore une fois, sur le fond, si tout le monde interdit les jets dans le monde entier, moi, ça me va, ça me pose pas de problème.
Ah bah, on progresse.
Non, j'ai toujours été comme ça. Mais faire des mesures franco-françaises, on va se tirer une balle dans le pied, on n'améliorera pas le sort de la planète du tout. Donc c'est pour ça que je trouve ça ridicule.
Mais il y a quand même
la France
le symbole, je vous disais.
À surtaxer l'achat de yachts. Tout le monde dit, super, les yachts, c'est pour deux mecs pleins aux as, un couple plein aux as, qui va barboter dans la Méditerranée, et ça ramène rien. Bah oui, on a fermé les chantiers navals français qui construisaient les yachts privés. Et ils sont construits où? En Allemagne, ils sont construits en Italie. Et on n'a pas fait rentrer de taxes en plus. Et on n'a pas fait baisser la pollution.
Il y a quand même une notion un peu symbolique dans ce débat. Et je ne sais presque pas à qui poser la question du symbole. Mais Cécile, allons-y. La question du symbole par rapport à la question de l'industrie, de l'emploi.
D'abord, la question de l'industrie, de l'emploi. Il n'y a plus d'emploi sur une planète morte, Jérôme. Il n'y a plus d'emploi. C'est-à-dire que le sujet de savoir est-ce qu'on change de modèle, ça veut dire qu'on va pouvoir produire autre chose, produire différemment. D'ailleurs, les petits avions de tourisme, qui ne sont pas des jets, ils consomment beaucoup moins, par exemple.
Et les jets
d'énergie.
Consomment beaucoup moins que les jets il y a 15 ans. Et les Boeing consomment beaucoup de moins. Et les Airbus aussi.
Aux passagers, c'est sans commune mesure. Et le problème, effectivement, vous avez raison Mathieu, c'est qu'il y a une question de symbole. C'est-à-dire que quand vous avez des riches qui ont beaucoup d'argent et qui dépensent des choses qui valent très cher, une suite à 10 000 euros à Cannes, en fait, ça ne prive pas quelqu'un et ça ne pollue pas davantage.
Dans l'absolu, ça prive de construire un immeuble de HLM à la place de l'hôtel.
Non, quand on parle de fortune privée. Quand on émet plus, qu'on pollue plus, c'est-à-dire qu'on s'achète un droit à rendre malade la planète et ses habitants, là c'est un problème. Et surtout, là où c'est pire, c'est qu'on est dans un moment où il y a des gens qui n'arrivent même pas à faire le plein pour aller travailler. Et à qui on dit que c'est tout à fait sans problème que des gens polluent plus et utilisent du pétrole pour finalement rien de plus efficace que se déplacer dans un avion normal.
Et les gens qui travaillent à l'aéroport de Toulon, les gens qui travaillent à l'aérodrome de Saint-Tropez, ceux qui travaillent à Nice, quand il n'y aura plus d'aviation d'affaires, quand il n'y aura plus d'aviation privée,
mais que ça change
ils
l'économie.
Plus du tout d'argent pour payer leur
que
plein.
Ça change l'économie. Que ça change l'économie. On a eu ce débat autour de l'intelligence artificielle. Quand on fait évoluer la technologie, et là pour le coup, si on arrive à une société plus sobre en émissions de carbone, on va juste sauver notre peau de façon assez. Et donc les métiers vont évoluer, les activités vont évoluer. Il y aura plus de gens qui travailleront dans les gares.
Je peux partager ce point de vue, mais vous avez nos petits bras musclés à tous les deux. On ne l'interdirait qu'en France. On ne l'interdirait pas ailleurs. Et donc il y aura toujours des gens qui atterriront non pas à Nice. mais en Italie, et qui prendront leur hélicoptère pour aller jusque Monaco.
Jérôme, on a par exemple,
il n'y aura plus de salariés privés, il ne nous restera que nos yeux pour pleurer.
On a évoqué un temps, au moment de la Convention citoyenne pour le climat, l'interdiction des vols domestiques, des Paris-Lyon, Paris-Marseille en avion, alors que ça peut se faire, quand ça peut se faire en train, etc.
Pour 2h30.
Ce serait inaudible pour les gens de restreindre les vols et de laisser ce balai de jets privés autour de la croisette. Non mais ça,
restreindre les vols pour les vols charter ou les vols les lignes directes entre quand il y a une alternative pour le train à 2h30, ça s'est fait sans tram. Vous faites plus de Bordeaux-Orly par exemple.
Oui.
Mais par contre vous faites un Bordeaux-Roissy.
Mais là vous faites un Niscan en avion, Niscan c'est 33 km.
Oui, mais ça rapporte des dizaines de milliers d'euros à l'économie locale. À l'industrie française, à l'économie du luxe, à l'économie du tourisme.
Alors, je vais dire une chose.
Et si vous voulez interdire, on pourrait taxer.
Alors, on peut faire les deux. D'abord, parce que on peut interdire un certain nombre de pratiques. Oui, le Niscan en jet, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Et on peut taxer, d'ailleurs. Le milliardaire dont je parle explique qu'il faut taxer de manière très importante, à minima, pour les vols qui sont très nécessaires, pour des raisons professionnelles, par exemple, pour des raisons médicales, éventuellement. Mais ces espèces de vols qui sont même pas des vols de loisirs, qui sont juste de la démonstration de... capacité à gaspiller de l'argent. Ça, c'est pas logique. Et je termine là-dessus sur est-ce que la France peut ? La France, c'est la principale destination touristique du monde. Tout le monde veut venir en France. Quand on a dit qu'il y avait plus des bus qui allaient s'enquiller les uns derrière les autres avenue de Rivoli, bah, on y arrive. Et les gens viennent quand même visiter le Louvre.
On parle de Cannes dans le monde entier. Pourquoi ? Parce qu'il y a des vedettes, il y a des stars qui y viennent.
Elles viendront quand même.
7h57 sur RMC Story. De toute façon, on n'allait pas vous mettre d'accord ce matin. Mais dites-nous, vous, ce que vous en pensez, que ce soit pour le festival ou d'autres déplacements. D'ailleurs, 32-16, vous serez les bienvenus en direct avec nous. Dans un instant, la météo, le journal de 8h. Et juste après, l'économie avec vous, Emmanuel Lechypre.
Eh oui.
On parle d'immobilier, de logement.
Oui, le logement neuf espérait sortir en fin de la crise, il y replonge.
A tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.